Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. On vous emmène en Inde aujourd'hui avec une grosse surprise. Vous entendrez le témoignage choc d'un ancien avocat commis d'office et un académicien vous parle de séduction. La romancière franco-indienne Shumona Sinha raconte les destins de trois femmes qui évoluent en France et en Inde. Le déracinement, l'exclusion, les comportements culturels et le repli identitaire sont au cœur de ce livre intense qui va forcément vous faire réagir. Elle a défendu l'indéfendable, un monstre qui a torturé et tué sa fille de 8 ans. Véronique Sousset raconte cet épisode de sa vie. Elle est devenue, aux yeux du monde, l'avocat d'un monstre, un avocat commis d'office. Et puis nous réfléchirons à la séduction. Possible après la jeunesse. Jean-Marie Roire de l'Académie française raconte le désir, la jalousie et la frustration des séductions manquées à un âge avancé.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et comme d'habitude, quatre libraires sont en multiplex à travers la francophonie. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Bruxelles dans la librairie La Licorne. Billy Robinson n'est pas très loin de vous, hein, quelques milliers de kilomètres au Québec dans la librairie de Verdun à Montréal. Bonjour Billy.
Bonjour Emmanuel.
Sous la neige je crois en ce moment.
Oui, beaucoup.
Normal, hein, c'est le mois, ouais. Le mois de la neige. Bonjour Dominique Bressoux.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire en Suisse dans la librairie Une Petite Prose à Boudry. Et il y a Mathieu Colombe en France, libraire à Aix-en-Provence dans le sud de la France, dans la librairie Goulard. Il est bloqué dans un train ou presque, en tout cas il est sur le chemin. Bonjour Mathieu.
Bonjour Emmanuel, je suis sorti du train en fait, je suis en taxi.
Ah, très bien, donc vous arrivez chez nous.
Oui, bientôt, dans pas longtemps.
Parfait, donc bloqué dans un train, ça commence bien cette émission aujourd'hui, c'est bien.
C'est pas mal, sinon vous avez de grippe, on m'a dit que vous étiez un petit peu grippé, comment ça se passe?
Oui c'est ça, j'ai la grippe, je ne suis pas passé à côté, je suis désolé, donc je m'excuse par avance d'ailleurs pour ma voix et ma vivacité affaiblie aujourd'hui. D'ailleurs si on pouvait mettre la clim dans ce studio qui est un véritable sauna, mais il paraît que ça vient de moi, je sais pas. Ok, à tout de suite. Bonjour Jean-Marie Roire.
Bonjour.
On vous reçoit pour la première fois, soyez donc le bienvenu dans la librairie francophone. Votre roman Une jeunesse perdue vient de sortir chez Gallimard, on en parlera tout à l'heure. On commence toujours cette émission par une anecdote personnelle, une histoire étonnante, racontée par l'un de nos invités. Vous avez carte blanche, Jean-Marie Roire, que voulez-vous transmettre?
Alors, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire un peu triste. C'est ma première histoire d'amour.
Oui.
J'étais amoureux d'une jeune fille, je devais avoir 16 ans, et nous avions passé une soirée merveilleuse dans l'île de Noirmoutier, sur une plage, près d'une barque. Et vraiment, c'était une étreinte formidable, merveilleuse. J'étais déjà très amoureux de cette jeune fille. Et puis, elle me dit, il faut que je rentre, parce que mes parents m'attendent. Et elle n'a pas la permission de minuit. Et je lui dis, je vais vous raccompagner. Elle me dit, non, ne me raccompagnez pas, parce que mes parents sont très sourcilleux. Alors je lui dis, mais vous êtes sûr? Oui, ne me raccompagnez pas. Très bien, je l'accepte. Et je lui dis, mais pour pas que vous ayez froid, je vous confie mon pullover rouge, je le mets sur les épaules, elle s'en va. Mmh. Et au bout de 3 minutes, je me dis, c'est pas possible, je ne suis pas un gentleman, il faut absolument que je raccompagne, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Je me mets à courir, je vais derrière elle, voilà, bah, j'essaie de la retrouver, et j'arrive sur une petite place, je m'en souviendrai toujours, il y avait une fontaine, et je vois une jeune fille qui embrassait goulûment un garçon. Et cette jeune fille avait sur ses épaules un pullover rouge. Ça a été affreux. Je suis rentré chez moi. Ma mère m'attendait, parce que j'avais une mère qui était vraiment merveilleuse d'attention. Et je lui raconte l'histoire. Et la conclusion de ma mère a été très réaliste. Elle m'a dit, il faut quand même que tu récupères ton pullover rouge.
Mais c'était elle, vous êtes sûr? Vous l'avez vu de face?
Mais bien sûr que c'était elle.
Parce que des pullovers rouges, il y en a plein.
Avec les femmes, on se trompe rarement. Elles vous trompent souvent, mais soi-même, on se trompe rarement.
Vous allez avoir des problèmes, ça n'engage que vous. Moi, je ne suis pas en état aujourd'hui pour gérer ça.
C'est le thème de tous mes livres. C'est le thème. Mes lecteurs en trouveront un thème qui m'est cher.
Oui, on sait.
C'est ce qui explique mon pessimisme amoureux.
Jean-Marie Roire est dans la librairie francophone cette semaine. Et bonjour Shumona Sinha.
Bonjour.
Après Assommons les pauvres et Calcutta, deux livres salués par la critique et par le public, vous publiez Apatride aux éditions de l'Olivier. Vous y allez fort, vous décrivez le chaos en France et en Inde, à Calcutta. Nous avons retrouvé d'ailleurs des ambiances de rue de Calcutta que vous entendez en ce moment. À travers le portrait, comme ça, de trois femmes, dont Esha, qui a quitté Calcutta pour vivre et enseigner à Paris. Vous la décrivez comme étant hors code et donc identifiée comme telle et discriminée.
Oui, d'abord j'avais commencé à écrire sur Mina. Comme vous savez, il y a plusieurs cas de viol en Inde. Et donc j'ai essayé de comprendre et ça m'a paru que ces cas de viol, c'était comme une expression érotique d'un conflit socio-économique.
Donc ça c'est le cas de Mina, l'autre personnage.
Voilà. Et j'ai commencé à écrire là-dessus et puis il y a eu janvier 2015 et j'étais à Paris évidemment. Ouais. Et donc je n'ai pas pu rester loin à Calcutta dans mon écriture, parler d'une femme qui me tenait toujours à cœur. Et donc j'ai commencé à composer le personnage de Esha et essayer de comprendre encore une fois de qu'est-ce que c'est être femme, qu'est-ce que c'est être femme de couleur, même si l'expression je n'aime pas parce que les autres n'en sont pas transparents, mais essayer de comprendre toutes les fractures sociales, politiques, religieuses qui existent, qui peuvent exister dans Paris, dans la région parisienne.
Alors elle est désignée effectivement par les hommes, rejetée par les femmes, elle se sent rejetée et renvoyée à ses origines en permanence. Et elle parle de la France comme étant, je cite, ce pays, ce foutoir géant où les gens venaient de tous les coins du monde et où on s'offusquait de voir tant de gens venir de tous les coins du monde.
Oui, les vagues d'immigration depuis des siècles en France, dans beaucoup de pays en Europe, ça existe.
Non, mais c'est terrible cette phrase quand même, ce foutoir, ce pays foutoir.
Oui, c'est terrible. C'est terrible, ouais. Oui. Non, j'étais dure dans ce livre. C'est vrai que dans un huis clos d'un texte, on se permet à toutes les vacheries même.
Ah ben là, il y en a, oui, des vacheries. Ouais, c'est très dur. Hein,
d'accord.
Contre la France et contre Calcutta d'ailleurs. On va donner la parole à un libraire belge qui a lu votre roman Shumona Sinha. Elle a un message pour vous, Déborah Damblon.
Alors d'abord, j'ai été fascinée et très très séduite par votre écriture, votre style, parce que j'ai trouvé qu'il avait vraiment à certains moments la puissance d'un cri. Et puis il y a eu toutes ces histoires de femmes, et je suis entrée totalement en compassion avec elles, et c'est probablement cette universalité que je vais retenir de votre très très beau roman.
Merci infiniment, ça me sauve.
Oui, n'ayez pas peur, Shumona, tout va bien ici, vous savez bien. Alors c'est vrai qu'il y a ces portraits de femmes avec à Calcutta aussi une autre forme de violence, un combat à mener pour Mina, qui elle va être sacrifiée pour l'honneur de sa famille, mais aussi pour Marie, qui elle est partie en Inde pour en savoir plus sur ses origines. Elle a été adoptée en France et quand elle arrive en Inde, elle est frappée également par les injustices sociales.
L'Inde est un pays qui est vaste et complexe et compliqué, comme vous le savez. Et même si ce pays il est considéré comme porteur de la plus grande démocratie du monde, mais cette démocratie, à l'intérieur de la démocratie, il y a le système féodal qui continue à fonctionner. Nous avons eu le premier ministre Indira Gandhi dans les années 80. Une femme. Ouais. Problème, c'est que souvent les filles d'eux, ou femmes d'eux, ou mères d'eux. C'est-à-dire, c'est vraiment la dynastie familiale qui continue à fonctionner quand on n'a pas de moyens, c'est-à-dire quand on est pauvre, quand on n'a pas d'éducation. C'est dans ces conditions-là, être femme en Inde, ça reste un fardeau, ça reste un combat perpétuel de tous les jours pour s'affirmer en tant que femme.
Donc les injustices sociales, elles ciblent les femmes, elles ciblent aussi les paysans. Il y a toute une histoire avec des paysans que l'on déplace pour construire des entreprises. Voilà, tout cela ressort dans ce roman. On va écouter le son du monde de la semaine, Shumona Sinha. Le principe, c'est une musique habillée d'une voix. Une voix qui lit un extrait de votre roman. C'est une surprise pour vous. Celui qui a accepté et que nous avons enregistré en tout début de semaine chez lui, c'est Jean-Claude Carrière. Grand spécialiste de l'Inde, il a même publié un dictionnaire amoureux de l'Inde chez Plon. Vous connaissez, je suppose.
Je l'admire énormément.
Alors voici sa lecture et son commentaire sur la musique indienne de Baul Bishwa.
সজনি এলো না ঘরে আধার পোহালে সজনি এলো না ঘরে আধার পোহালে হে কি প্রেমের হাওয়া লেগেছে তার অন্তরে
En sortant du cybercafé, Marie avait la migraine, comme souvent depuis son arrivée à Calcutta. Là-bas, les voitures, bus, camions, charrettes, pousse-pousse, piétons, colporteurs et mendiants criaient, râlaient, klaxonnaient, sciaient l'air de la ville dans leur course exaspérée, jusqu'à ce que tout s'en mêle en un embouteillage chaotique. Les cris des haut-parleurs secouaient les jours et les nuits jusqu'au fin fond de la campagne. Les prières du temple rivalisaient avec les chansons de Bollywood diffusées par les clubs de jeunes à chaque carrefour pour annoncer les séances de cinéma en plein air ou les meetings des partis politiques. Les militants sillonner les rues en pousse-pousse, micro à la main, et distribuer des tracts. Marie ne comprenait pas que les gens ne puissent communiquer sans crier, qu'ils ne soient pas encore tous devenus sourds, comme si le silence leur faisait peur, qu'ils aient besoin de ce vacarme en permanence, sans doute, pour avoir l'impression d'exister.
Une réaction à ce texte, Jean-Claude Carrière.
C'est une image de Calcutta que je connais bien, que j'apprécie beaucoup. C'est une ville où je suis allé souvent et que j'aime. C'est la capitale intellectuelle de l'Inde. Mais il est vrai que l'image qu'on nous en donne ici est celle d'un chaos. C'est souvent le cas, pas toujours. Calcutta, moi je l'aime parce qu'il y a 10 000 libraires. C'est la ville du monde où on lit le plus. C'est une ville étrange. J'ai assisté à des manifestations de montreurs de serpents venimeux. On parlait de les interdire, ils défilaient dans les rues en brandissant à deux mains leur gros serpent, leur gros cobra. On y voit des choses vraiment extraordinaires, comme partout en Inde, bien sûr.
Qu'est-ce qui vous a donné cette envie, cette passion pour l'Inde ?
C'est totalement professionnel. Je ne connaissais pas l'Inde avant que nous décidions, au début des années 70, avec Peter Brook, d'adapter au théâtre et puis au cinéma et à la télévision le Mahabharata, qui est une des deux grandes épopées indiennes, la plus longue et la plus importante sans doute, l'autre étant le Ramayana. À partir de là, il a fallu d'abord connaître ce poème, et ensuite, comme il contient toute l'Inde, dès que nous avons commencé à aller en Inde, nous nous sommes rendus compte que nous devions connaître l'Inde jusque dans les moindres recoins. La dernière fois que j'y suis allé, il y a 2 ans, j'ai fait le compte, c'était mon 46e séjour. Quelque chose m'y attire, je ne peux pas faire autrement, et je suis sûr que chaque fois, je le dis aux amis qui m'accompagnent ou à ma femme, dans la première demi-heure, nous allons voir quelque chose que nous n'avons jamais vu avant.
Alors c'est grâce à vous, hein, Jean-Claude Carrière, que le public francophone a connu le Mahabharata, en tout cas le grand public, grâce à vous et Peter Brook. Pensez-vous qu'il a un rôle aujourd'hui, un rôle politique, un rôle social aussi ?
Je suis incapable de dire si la littérature sanscrite en général, car c'est un chef-d'œuvre de la littérature sanscrite avec évidemment le Ramayana, joue un rôle social et politique. Tous les connaissent. Est-ce que ça joue un rôle apaisant ou au contraire excitant à la bataille, puisque c'est l'histoire d'une grande guerre quand même, le Mahabharata.
C'est violent, hein, par moment
oui,
d'ailleurs.
Très
c'est érotique, violent.
Il y a tout ça, oui. Il y a tout. Le grand problème qui se pose à beaucoup de communautés indiennes, musulmanes, chrétiennes par exemple, est de savoir s'ils doivent se convertir ou non. S'il faut rejoindre le pouvoir, au contraire, continue à subir sorte de discrimination qui existe quand même. Quelqu'un que j'ai vu, un chiffonnier, vous savez, quelqu'un qui ramasse des bouts de chiffon par terre avec une pique, pauvre parmi les pauvres, hein, a dit à un journaliste qui l'a interrogé, on est venu nous demander si nous étions hindouistes, on est venu nous demander si nous étions chrétiens, on est venu nous demander si nous étions musulmans, personne ne nous a demandé si nous avions faim.
Jean-Claude Carrière, très intéressé par votre roman Shumona Sinha. Son dernier essai d'ailleurs sur la paix est paru récemment chez Odile Jacob. Les codes en Inde sont régis par le mélange des traditions, par le mélange des religions, hein, il en parlait. Ce vacarme pour avoir l'impression d'exister, comme vous l'écrivez, c'est aussi une façon de noyer les différences.
Toutes ces discriminations économiques, sociales, religieuses, elle existe terriblement en Inde, partout. Et justement, ce qu'il a dit, très justement, Jean-Claude Carrière, c'est que Ramayana et les Mahabharata, ce sont des grandes épopées qui ont vraiment incité la haine communautariste chez les hindouistes fanatiques à l'égard des musulmans.
Ah, qui ont incité la haine, oui.
Et même, les plusieurs émeutes communautaristes ont eu lieu en Inde, en 1947, au moment de la partition en Inde, évidemment, mais après, en 1992-2005, notre premier ministre, chef d'État indien, Narendra Modi, il est élu de BJP, mais il était aussi membre militant de RSS, coalition de BJP qui est actuellement au pouvoir en Inde, et bien un militant de RSS avait assassiné Mahatma Gandhi.
Oui, c'est ça. Donc il est très controversé d'ailleurs, hein, Modi, le premier ministre indien.
Il est extrêmement controversé, vous le savez.
Responsable, selon beaucoup, hein, du génocide musulman.
Exactement.
Pourtant, il est au pouvoir.
Et puis, il est pourtant au pouvoir. Donc, l'Inde, qui a jusqu'ici, le peuple indien a élu le parti Congressai, qui est le parti de droite centriste. Et aujourd'hui, maintenant, depuis quelques années, c'est le parti de Narendra Modi qui l'ont élu. Donc, il y a, je pense que partout, à peu près partout dans le monde, le peuple a une mémoire assez courte.
Et les valeurs du Mahabharata, alors ? Elles ne changent rien. Elles excitent, comme dit Jean-Claude Carrière, plus qu'autre chose.
Je pense que n'importe quelle épopée ne peut avoir qu'une seule valeur. Il y a plusieurs valeurs et même contradictoires. Mais le problème, c'est que si on essaye d'appliquer ces valeurs-là dans la vie quotidienne d'aujourd'hui, avec un sentiment nationaliste, avec le sentiment de suprématie d'une race blanche, et ça pose de problèmes. Autrement, poétiquement parlant, ce sont des textes magnifiques.
Hein. Oui, d'accord. Deux autres libraires ont lu votre roman, Shumona Sina. Suisse ou Canada, on commence par qui ?
Comme vous voulez, pile ou face.
Pile ou face, Dominique Bressoux en Suisse. Allez, hop.
Ce roman m'a vraiment secoué. J'ai lu et surtout relu je ne sais combien de passages, non seulement pour la beauté de l'écriture, mais pour l'exactitude de ce que peuvent ressentir ces femmes en butte à la bêtise et à la violence masculine. Et c'est à la fin du roman que j'ai compris ce qui me bouleversait autant. À leur place, impossible de faire autre chose que subir. Et comme Déborah l'a déjà dit, c'est finalement l'universalité de la condition féminine plus ou moins écrasée selon les cultures qui transparaît dans votre roman. Et ça fait mal, mais un livre comme le vôtre peut contribuer au changement et je vous en remercie.
Merci infiniment, ça me touche vraiment. Je perds mon latin parce que c'est extrêmement... Oui, on n'a pas un but, un objectif comme ça de faire passer un message quand on écrit.
Oui, parfois enfin, ça se produit. Ouais.
Oui, ça se produit.
Bon, on va voir au Canada si Billy Robinson est d'accord. Billy.
Et je suis tout à fait d'accord.
Ah, ben voilà.
Nous avons un bijou entre les mains. C'est vraiment un livre important. Et sa lecture là, que je juge là, essentielle, là, finalement, il porte à la réflexion sur la place que l'on doit faire à l'autre, bien sûr, mais encore plus important, il porte un regard sur la décision souvent difficile de trouver sa place. Alors, contrairement à bien des livres là, qui ont pu porter sur le sujet, ce roman est d'une sincérité là, désarmante qui m'a ému et qui m'a fait beaucoup réfléchir. Merci beaucoup.
Merci infiniment.
Félicitations, Shumona Sina, vous séduisez nos libraires aujourd'hui. On ressent dans votre roman une forme de paranoïa qui vient de toutes parts. En France, avec le regard des autres, à Calcutta, avec les possibles manipulations politiques des militants, il n'y a pas de place, comme en parlait à l'instant Billy, il n'y a pas de place pour ces trois femmes, vos personnages.
Malheureusement, non, dans le roman. C'est-à-dire que notre corps... corps de la femme, corps de l'homme, notre corps, c'est notre premier territoire, c'est notre pays, c'est notre premier espace, c'est notre pays. Si on nous ôte les droits qu'on a cru acquis jusqu'ici, qu'on ce soit en Inde, qu'on ce soit en Europe, dans plusieurs pays en Europe ou aux États-Unis, si on nous ôte les droits pour décider sur notre propre corps, c'est-à-dire on nous ôte, on nous chasse, on nous déloge dans notre corps, dans notre territoire, dans ce cas-là, on devient toute apatride. Par contre, il faut que je mentionne également qu'il y a beaucoup de mouvements féministes qui ont eu lieu en Inde, qui continuent à fonctionner. Et ce n'est pas ce qui est bien encore, c'est que ces mouvements féministes-là n'en sont pas contrôlés, dirigés uniquement par les femmes féministes intellectuelles de la haute société. Vous voyez, il y a des femmes massivement, les paysans, ouvriers, dans les villes, dans les grandes villes, dans les villages.
Qui se mobilisent aujourd'hui.
Qui sont dans la rue.
Et vous écrivez, elle avait l'impression qu'elle n'avait pas réussi à fuir les sources souterraines de la violence, que désormais le sol pouvait se fissurer et s'effondrer partout sur la terre.
Oui, ça je pense que...
C'est très négatif, hein. C'est très pessimiste en tout cas.
Oui, c'est très pessimiste, oui. C'est-à-dire que, voilà, là j'avais, comme vous avez remarqué que j'avais peur, et maintenant, vu votre réaction et les réactions des libraires, j'ai l'impression, même si c'est un livre pessimiste ou qui reste pessimiste dans le texte, mais la réaction, ce qui surgit du texte après le dialogue, c'est quelque part encourageant, c'est-à-dire il faut prendre force,
il faut
réagir.
C'est
la résistance, c'est le mouvement, voilà.
Très bien. Merci beaucoup, Shumona Sina. Votre roman Apatride est paru aux éditions de L'Olivier, un roman qui ne peut pas laisser indifférent et qui inquiète vraiment sur cette humanité déréglée. Merci, Shumona. Vous
restez
bien sûr avec
nous. Merci beaucoup, Emmanuel.
À suivre cette histoire vraie, terrible, avec l'ancienne avocate Véronique Sousset, farouchement opposée à la prison à perpétuité et qui a pourtant défendu un monstre absolu. Avant cela, voici le groupe Blondino qui sort son premier album. C'est tout nouveau et c'est dans la librairie francophone.
Cocktail, cocktail, don't
Belle chanson de Blondino, bel espoir de la chanson francophone Bleu, extrait de l'album Jamais sans la nuit sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Et toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde avec des libraires qui vous présentent leur coup de gueule ou leur coup de cœur. Et on commence avec la France, dans le rayon des polars. Mathieu Colombe, coup de gueule ou coup de cœur?
Ah non, gros coup de cœur sur Hervé Lecor, qui, avec son roman « Nous prendrons les loups pour des chiens », on est vraiment dans l'école du polar à la manchette, donc avec une belle chronique sociale, mais en même temps, on sent que le type est joueur, il sait écrire, il sait décrire les personnages, on rentre dans une ambiance qui est particulièrement glauque, mais en même temps, voilà, on a cette écriture, on est obligé de le suivre, c'est ciselé, ce type écrit avec un scalpel, c'est absolument fantastique, donc comme je vous dis, c'est vraiment un type qui fait des grands classiques, mais avec un twist très personnel, enfin, il arrive à imprimer sa patte. Je trouve que c'est un des grands auteurs de polar français actuellement. D'accord. Il faut le lire absolument.
Hervé Lecor, Prendre les loups pour des chiens, aux éditions Rivage. Merci beaucoup Mathieu. En Suisse, Dominique Bressoux, vous nous emmenez dans le rayon des livres pour la jeunesse, avec un coup de cœur aussi, je crois.
Un vrai, vrai coup de cœur pour Le Jardin de Madame Li de Célie et Louis chez Piquet Jeunesse. C'est l'histoire d'une vieille chinoise partie remplir des jars d'eau. L'une de ces jarres, aussi vieille qu'elle, fuit. Mais si Madame Li laisse couler l'eau sur le chemin, ce n'est pas si grave, comme va le découvrir la petite fille qui l'accompagne. Le Jardin de Madame Li, c'est un album d'une poésie subtile soutenue par des illustrations fabuleuses en ombre chinoise. C'est un magnifique petit livre qui fait rêver petits et grands.
Et c'est chez Piquet Jeunesse. Merci
chez Piquet Jeunesse.
Merci Dominique.
Merci.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Bonjour Véronique Soucet.
Bonjour.
Vous publiez Défense légitime aux éditions du Rouergue. Vous avez été avocate. Vous êtes aujourd'hui directrice de prison. Dans ce livre, vous confiez avoir défendu l'indéfendable. En 2012, vous aviez accepté d'être avocat commis d'office sur l'affaire d'Arras Sabatier, ses parents qui ont torturé et tué une fillette de 8 ans. Ils avaient 4 autres enfants qui, eux, n'ont pas été maltraités. Pourquoi il n'y a que la petite Marina qui a été victime ?
Ah, c'est compliqué de répondre à cette question. Et puis, j'espère en tout cas que le livre alors s'appuie sur ces faits, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est la rencontre, moi, qui m'intéressait. La rencontre avec ce que l'opinion nomme un monstre. Oui. La rencontre que l'on peut faire et quel homme peut être derrière le monstre s'il y en a un. Pourquoi cet enfant? Alors, je l'explique aussi dans les pages. Pourquoi cet enfant? Parce que quand vous apprenez la naissance de votre enfant par la mort, on va dire qu'on débute mal.
Oui, c'est ça. C'est qu'il croit qu'elle est morte.
Enfin, on le lui dit.
On lui dit, oui.
Voilà. Et puis, je parle aussi de conjugopathie. Enfin, parfois, il y a des gens qui se feraient beaucoup de bien à ne pas se rencontrer.
La rencontre avec sa femme.
Voilà.
Qui a été déterminante dans l'horreur, quoi.
En tout cas, il y a des gens qui pourraient se faire du bien de ne pas se rencontrer et c'est pas un coup de foudre, c'est un coup de semonce.
Alors, vous racontez les éléments du dossier, vous vous efforcez d'ailleurs de ne pas trop regarder les photos parce que les actes sont horribles. Dès son plus jeune âge, Marina a reçu des coups de poing sur le visage et sur le corps, enfermée dans une chambre volée clos, puis dans un garage, une cave, nue, affamée. On lui fait subir des douches froides, on l'attache sur son lit, on lui met un plat, un hamburger devant les yeux avec du gros scotch sur la bouche alors qu'elle est attachée. Et puis un jour, dans la salle de bain, on lui cogne la tête contre la baignoire.
Voilà.
Ça vous émeut encore, cette histoire?
Oui, ça émeut. D'ailleurs, dans le livre, qui n'est pas, je tiens vraiment à le souligner, qui n'est pas uniquement un témoignage qui relate les faits. Je voudrais qu'on retienne sa dimension littéraire.
Mais là, juste, on resitue là.
Dans la reconstitution, qui est une journée absolument effroyable, quand vous rentrez dans cette maison, et dans cette maison tombeau, et que vous refaites le chemin, et que vous entendez tout ce que les murs ont gardé de ces souvenirs terribles, effectivement, il faut sortir de cette journée et c'était la rencontre avec un peu aux lisières des ténèbres. Enfin, voilà.
Comment avez-vous d'ailleurs eu la force de continuer à le défendre quand il y a eu cette reconstitution? Parce que vous allez dans la maison, on utilise une poupée de chiffon pour simuler la maltraitance et vous continuez quand même.
Alors oui, parce que au départ, je découvre les faits par l'effet brutal, en tout cas de la lecture du dossier. Et ensuite, je vais rencontrer cet homme au parloir, qui aura d'ailleurs cette phrase à l'égard d'une de mes consoeurs, en demandant pourquoi est-ce qu'elle peut pas le défendre, en demandant est-ce que c'est compliqué.
Oui.
Donc il a une espèce de désinvolture très anxieuse, très anxiogène pour l'interlocuteur. Et puis, il se passe quelque chose dans cette cave tombeau. J'avais déjà rencontré un homme, et pas qu'un monstre, parce que je pense qu'un homme ne se réduit pas à son acte, aussi terrible soit-il.
C'est ce que vous écrivez, ça, oui.
Oui, j'en ai...
Comment ça se fait que vous en arrivez à cela? Parce que vous avez des rapports très distanciés avec votre client, ce monstre qui reconnaît lui-même être un monstre.
Oui.
Et pourtant, vous dites effectivement qu'un homme ne se réduit pas aux actes qu'il a commis.
Non, je pense qu'on n'est pas uniquement cet acte, on peut être la somme d'actes, mais on n'est pas cet acte-là, il était autre chose. Je n'aurais pas pu défendre n'importe...
Mais qu'est-ce qu'il était?
Quel homme? Un homme normal, un homme ordinaire.
Un homme ordinaire qui tue, qui torture
et
sa fille.
Et qui commet quelque chose d'abominable. D'abominable.
Vous imaginez bien, Véronique Soucet, que certains diraient qu'il mérite la peine de mort, là, au moment, justement, où des politiques se posent la question de la légitimité de la peine de mort dans des cas extrêmes comme celui-ci. Que répondez-vous, vous, à ça?
Ben, qu'il faut lire mon livre. Je leur dis, lisez le livre et peut-être se dire que, et Anna Arendt le disait déjà dans La banalité du mal, quelqu'un d'ordinaire qui commet des choses épouvantables, la rencontre de cet homme à travers, donc j'allais dire, on dépasse le monstre, je parle de, à un moment donné, de ses mains, et je dis que les mains du coupable sont plus grandes que celles du condamné. Il doit être condamné pour ses actes, mais je crois que permettre aussi à des personnes qui vont juger quelqu'un pour le conduire en prison pendant de longues années parce que c'est effectivement ce qu'il méritait. En tout cas, c'est aussi l'honneur de l'avocat de pouvoir donner à ces personnes à voir la personne derrière le monstre.
Toute la personne, dans sa complexité, dans son horreur. Et... on va laisser la parole aux libraires qui ont lu votre livre, Véronique Soucet. Au Canada, Billy Robinson, vous avez été fasciné par ce récit.
Oui, ce livre m'a complètement décontenancé, malgré son sujet et surtout l'horreur du crime commis. Cette façon d'exposer les faits en y entremêlant vos impressions professionnelles et personnelles lors de la préparation et tout au long de ce procès, là, c'est tout à fait hors du commun. Une lecture qui pousse à notre propre examen de ce que l'on croit être le bien et le mal et qui vous reste en tête quelque temps après avoir refermé les pages. Là, et comme vous l'avez dit, il faut lire ce livre.
En Belgique, Déborah Damblon, êtes-vous d'accord?
Mais oui, oui, oui. Moi, je vous avoue que je redoutais d'abord de me lancer dans de la non-fiction parce que j'en lis peu. Et puis avec ce sujet terrible, en plus j'avais lu La Maladroite, il m'avait fallu des semaines pour m'en remettre.
Non, ça c'est le roman qui avait été publié par Alexandre Seurat.
Exactement,
en 2015.
Qui parlait de ce fait divers.
Oui.
Et franchement, je ne me serais pas lancée spontanément dans la lecture. Et pourtant, Madame Soucet, vous parliez de reconnaissance littéraire. Eh bien c'est grâce à votre style littéraire, grâce à un seul mot, ce « vous » que vous utilisez pour vous adresser directement à l'accusé, eh bien, je trouve que vous avez réussi à faire entrer votre récit dans une autre dimension. Et puis, comme le disait Billy, avec cet homme que vous pointez, vous nous renvoyez dans les cordes de nos propres monstruosités, de nos propres humanités.
Voilà, Véronique Soucet, la vie de nos libraires. Vous dites aussi que vous avez mené ce procès pour lui éviter la peine de prison à perpétuité. Pourquoi êtes-vous contre cette peine à perpétuité?
Alors, je ne suis pas contre la peine à perpétuité, absolument.
Ah, vous dites que c'est votre ennemi dans le livre.
En tout cas, oui, c'est mon ennemi comme tout ce qui est radical et qui est aux extrêmes. Voilà, je pourrais dire que mon ennemi, c'est l'extrême. Et la perpétuité, en l'occurrence...
Même dans les cas extrêmes, excusez-moi. Mais...
Oui, parce que je pense qu'il faut toujours... La perpétuité empêche de se poser la question. C'est du désespoir programmé. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne se pose plus la question. Moi, je voulais me poser la question, non pas de la peine juste. Il n'y a pas de peine juste pour la mort d'un enfant, pour la mort de quelqu'un. En revanche, se poser la question de la juste peine, faire cet effort. Cet homme n'était pas irresponsable de ses actes, avait pu s'expliquer. Derrière les murs d'une prison, on peut être aussi un homme en marche et on peut devenir quelqu'un d'autre.
Vous racontez que lorsque vous êtes en charge de ce dossier, vous devenez l'avocat d'un salaud, avant d'être plus brutalement encore ce salaud d'avocat, ou cette salope d'avocate.
Oui.
Certains vous ont jugé comme ça.
Oui, c'était une expérience que j'avais pu lire ou que d'autres m'avaient racontée, mais oui, ces regards et cette pression que vous sentez alors que vous approchez du banc des accusés pour vous asseoir près de lui et que la salle est bondée et qu'il n'y en a pas effectivement un pour venir dire autre chose, j'en trouverai qu'un. Et je le dis dans le livre, j'en trouverai qu'un pour venir dire qu'il était autre chose.
Oui, son meilleur ami.
Oui, ouais. C'est le seul que je nomme par
qui le défend jusqu'au bout. Hein. La force de l'amitié, c'est assez joli hein, cette histoire dans l'horreur, parce que cet ami finalement il est là puis il lui pardonne presque parce qu'il a envie que cet ami soit autre chose que le monstre qu'il est. Et d'ailleurs l'accusé va lui dire à son meilleur ami en plein procès, hein, va lui dire mais non, je suis un monstre. Il va lui dire, il le reconnaît. Vous vous êtes sentie salie, Véronique Sousset?
Absolument
par transfert,
pas.
Non.
Absolument pas. Non, ça éclabousse. Bien sûr que ça éclabousse, mais j'avais une solide armure.
Vous dites que défendre, ce n'est pas excuser, mais expliquer. À quoi servent les explications dans un cas comme celui-ci ?
C'est plus qu'expliquer. Souvent, en fait, pour répondre très rapidement. Mais la question était comment on défend un monstre, pourquoi on défend un monstre ? Parce que défendre est entendu souvent comme excuser. Ah, on défend, on va chercher des circonstances atténuantes, on va dire, ah bah oui, il a vécu cette jeunesse, il a eu un parcours chaotique. Non, défendre, c'est donner à comprendre. Et permettre à la personne, si on y est allé, si on a fait ce chemin vers la personne, c'est donner aussi un peu le tracé, le chemin pour donner. Et c'était comme ça que j'envisageais en tout cas la défense.
D'abord. Et ça sert à quoi ? Ça sert à qui ?
Alors c'est au nom du peuple français que la justice est rendue, donc c'est l'honneur...
En ce qui vous concerne, oui, parce que vous êtes avocate française.
C'était l'honneur de la démocratie aussi que de pouvoir juger un homme en lui permettant d'être digne. Et je pense que respecter la dignité aussi d'un coupable, c'est faire honneur aussi à la dignité de la victime.
Très bien. Merci beaucoup Véronique Sousset. Un livre terrible donc, Défense légitime, qui est paru aux éditions du Rouergue. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bon allez, on va essayer de changer un peu d'air dans cette plus grande librairie du monde. On part au Canada avec un beau livre et on commence avec un peu d'amour et un coup de cœur. Billy Robinson.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Avec le livre « Traces de l'histoire de Montréal » paru aux éditions du Boréal. Nombreux sont ces livres là, qui paraissent autour du 375e de la ville de Montréal. Et dans cette abondance, il y a du bon, il y a du moins bon. Alors ici, là, ce livre est magnifique, c'est extrêmement bien fait. On retrouve ici là, des documents, des photographies et même des œuvres d'art rarement vues. Mmh. Et tout ceci est agrémenté de textes là, vraiment super intéressants. Donc c'est fascinant, c'est instructif et ça nous oblige là, à lever un peu la tête et à regarder là, d'un peu plus près là, ce qui nous entoure. Donc une référence là, pour moi, puis c'est un de mes livres préférés sur le sujet.
Magnifique ville de Montréal, hein. Hommage à cette ville par Paul-André Linteau aux éditions Boréal. Merci Billy. Déborah Damblon en Belgique, un coup de gueule ou un coup de cœur ?
Allez, pour vous faire changer d'air, Emmanuel, un grand, grand, grand coup de cœur.
Ah, pas de coup de gueule cette semaine.
Un grand coup de
chapeau. Très
bien. Non, pas un coup de gueule.
Vous êtes sage, les libraires, aujourd'hui. Incroyable.
Mais
allez-y.
Non, c'est parce que j'ai envie de souhaiter un très, très bon anniversaire aux éditions Luce Wilquin.
Ah,
parce
oui.
que vous savez quand. Voilà, 2017, 30 ans pour les éditions Luce Wilquin. Et c'est vraiment, c'est pas vous qui allez dire le contraire, une de nos belles maisons d'édition belges.
Oui.
Elle est arrivée à développer vraiment un travail au long cours avec des super auteurs. Et je trouve que c'est à découvrir, à redécouvrir et à féliciter.
À féliciter les 30 ans des éditions Luce Wilquin que l'on suit évidemment dans cette émission depuis que l'émission existe, hein, à moins de 30 ans heureusement. Et pour l'occasion, les libraires offrent de la part de Luce Wilquin un recueil inédit à tout acheteur de deux livres de la collection et de l'édition. Merci beaucoup Déborah. La librairie francophone avec Shumona Sina, Jean-Claude Carrière, Véronique Sousset et Jean-Marie Roire de l'Académie française pour la première fois dans la librairie francophone. Dans votre nouveau roman, Jean-Marie Roire, votre narrateur craint de ne plus séduire les femmes à cause de son âge. Il y a une limite d'âge pour ça ?
Non. Ça dépend, c'est très variable.
Vous nous rassurez.
Et c'est pour ça que je ne lui ai pas donné d'âge, parce que
les gens qui
se sentent vieux à 40 ans, et puis il y a les gens de 90 ans qui se sentent pas du tout vieux.
Ouais.
Donc c'est pas la question. La question, c'est ce moment où on se sent en exil du désir, c'est-à-dire on a l'impression, et ça arrive avec l'âge, on se dit, mais je ne plais plus, mon corps ne séduit plus. Et ça, c'est quelque chose pour les femmes, comme pour les hommes, quelque chose d'atroce.
Atroce. On en parle dans un instant. Voici un homme qui n'a pas d'âge, Iggy Pop, le chanteur Iggy Pop, qui reprend un tube francophone d'Henri Salvador.
J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kerouan, et les grands oiseaux qui s'amusent en glissent l'aile sous le vent. Vois les jardins de Babylone et le palais du Grand Lama. Rêver des amants de Verona au sommet du Fujiyama. Vois les pays du matin calme, aller pêcher au Comoran et m'enivrer de vin de Palma en écoutant chanter le vent avant que ma jeunesse s'use que mes printemps soient partis. J'aimerais t'en voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris.
Eh oui, une version signée Iggy Pop de Syracuse sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Jean-Marie Roire est dans la librairie pour Une jeunesse perdue parue aux éditions Gallimard. Votre narrateur porte une réflexion sur l'âge et sur le désir. Il ne se sent plus désiré par les femmes et en fait il n'accepte pas de vieillir, c'est ça son problème.
Vous savez, je crois que personne n'accepte de vieillir, parce que, surtout pour les gens qui sont des amoureux, et j'espère qu'il y en a beaucoup, et que l'amour, c'est quand même ce qui donne un sens à la vie, c'est la vie.
Ouais.
Et en effet, il n'accepte pas, il régimbe, et parce qu'il a le sentiment d'être, de ne plus être un vivant. Donc il va essayer de réunir les conditions pour retrouver la vie à travers une femme.
Voilà. Alors, il dirige une revue d'art. Hein. C'est plutôt confortable, sa vie. Il est connu dans le milieu du monde de l'art. Son épouse est sous-préfète dans une petite ville de France. Ils ont un accord. Chacun vit de son côté. Ce qu'ils ont perdu en sexualité, ils l'ont gardé en paix intérieure. Le refuge, la sécurité, c'est ce qu'ils sont l'un pour l'autre.
Oui, mais c'est ce que j'ai voulu montrer. C'est que, en effet, il y a un domaine, qui est le domaine conjugal, dans lequel il a essayé de placer toute la sécurité. Mmh. Et évidemment, c'est là où il s'est trompé, parce que quelquefois qu'on faisait très attention à la sécurité, eh bien, on fait de mauvaises découvertes, et notamment, il va restaurer un meuble, il va faire, par un ébéniste, il va le faire restaurer, et il va y avoir un tiroir secret, et là, dans ce tiroir secret, il va découvrir une correspondance de sa femme leurs amis, très proches. Et à ce moment-là, le monde va s'effondrer, il va se rendre compte qu'au
fond... Des lettres d'amour,
oui. Oui, des lettres d'amour, et qu'au fond, c'est pour tous les personnages, c'est la même chose. J'ai essayé de trouver le tiroir secret de leur vie et de voir qu'il y a un autre personnage. Voilà. C'est un soupçon général sur tous les personnages, et c'est ce qui m'intéresse dans le roman. C'est ça, c'est de découvrir le mystère des relations humaines, le mystère de l'amour.
Alors, il y a plein de mystères dans ce livre, Jean-Marie Roire, avec cette jeune femme qui entre dans la vie de votre personnage. Valentina Orloff veut publier dans sa revue. Alors, il refuse dans un premier temps parce qu'elle est nulle.
Elle n'a pas mis sa photo.
Oui, elle n'a pas mis sa photo, puis elle est particulièrement nulle. Mais il se laisse avoir, au final. Il dit « Elle avait besoin de mon soutien et moi de sa jeunesse ».
Oui, il y a un échange. C'est vrai que le caractère d'échange dans ce livre est très important, notamment d'échange financier, puisque cette relation va se nouer sur, finalement, il va la payer. Et il faut dire qu'elle a une vie aussi très chargée. C'est une fille qui est bipolaire et qui, en même temps, est une Russe, avec une famille extrêmement compliquée.
Avec des drames dans la vie aussi.
Des drames terribles. Ouais. Et puis elle-même. Alors, elle a participé à des orgies. Enfin, vraiment, c'est une femme qui est extrêmement intéressante sur ce plan-là. Mais, disons, pour un jaloux, c'est terrible. Parce que, et d'ailleurs, à un moment, il va la faire suivre.
Shumona Sina est atterrée, après son discours sur le féminisme.
Par un détective privé, vous savez.
Et... Ne racontez pas tout, Jean-Marie.
Comment?
Ne racontez pas tout.
Je veux dire, à ce moment-là, il va se rendre compte
que, justement, comme le tiroir, fameux tiroir, oui, il y a des tas de personnages.
Il y a plein de tiroirs, ouais, à tous les
sens
du terme.
Enfin, ça n'empêche pas le féminisme, je ne vois pas, pourquoi. Justement, j'ai essayé de comprendre une femme qui, pour certains, serait indéfendable.
Alors, on va écouter la BO du roman. Jean-Marie Roire, on vous a demandé quelle musique accompagnerait le mieux votre livre, comme dans un film. Et vous avez choisi Édith Piaf. On écoute un extrait des Mots d'amour et vous nous expliquez juste après.
C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça, ça je peux te le jurer. Si jamais tu partais, partais, me quittais pour toujours. C'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour. C'est fou ce qu'il me disait comme joli mot d'amour et comme il les disait. Mais il ne s'est pas tué car malgré son amour, c'est lui qui m'a quitté sans dire un mot.
Pourquoi ce titre d'Édith Piaf, Jean-Marie Roire? Vous aviez aussi choisi Brassens, Il n'y a pas d'amour heureux. Bon, c'était plus attendu. Pourquoi Piaf? Parce que là, c'est positif.
Et parce que moi, je trouve que l'amour a absous tout. Ouais. Y compris dans cette relation, donc, avec une, ce qu'on peut appeler une courtisane, enfin, une femme qui se fait payer, eh bien, l'amour, justement, permet de, à la fois, de racheter cette femme, de racheter ce comportement d'un homme, et cet amour, il est tellement nécessaire que, quelquefois, on est prêt à le payer de n'importe quel prix. Et lui, il va vraiment mettre le prix fort.
Ah oui.
Mais c'est justement parce que, c'est l'explication que vous donniez tout à l'heure, je crois que le roman s'est expliqué. C'est expliqué et c'est tout justifié parce qu'au fond, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est la variété humaine que traduisent tous les écrivains. Et c'est, ils traduisent une variété d'expériences, de tempéraments, de sentiments, de positions politiques, philosophiques. Et justement, je trouve que cette explication, eh bien, c'est merveilleux. C'est ce qui fait aimer la vie. C'est justement la variété de ses positions.
Alors, la variété, il en est question avec les femmes, Jean-Marie Roire, parce que vous dites, il y a les femmes fleuves, les femmes fleurs, les femmes pieuvres et les femmes tempêtes. Alors, les femmes fleuves, elles sont placides, un peu molles, les femmes fleurs, fragiles et fades, chacun se reconnaîtra, les femmes pieuvres, avides et souples, et les femmes tempêtes, alors.
Les femmes tempêtes, c'est mon héroïne, c'est Valentina.
C'est Valentina.
Et cette femme qui vous entraîne là où on ne voudrait pas aller, et finalement, on y va, et la vie, à ce moment-là, prend des couleurs romanesques, parce que c'est le mouvement, c'est pas l'amour popote, c'est pas l'amour pot-au-feu, c'est pas la mère de famille, mais c'est quelque chose, c'est pas l'amour conjugal, c'est le contraire. Ouais. Mais cette passion, ça introduit, au fond, quelque chose d'universel, parce que tout, il y a eu tellement de livres sur ce thème de la femme de Pantin.
Et mais moi, vous avez été avec des femmes tempêtes, vous?
Bien sûr, bah, pourquoi croyez-vous que j'ai écrit ce livre?
Ah oui, c'est ce que vous avez recherché tout le temps, vous? La femme tempête.
Je n'ai pas cherché. Je pourrais dire que c'est plutôt elles qui m'ont recherché. Je ne sais pas quelle est. Il y avait un rendez-vous avec les femmes tempêtes. J'ai d'ailleurs écrit un autre livre qui s'appelait La femme de proie.
Oui. Bon, on va laisser la place à notre multiplex à travers la francophonie. Il y a peut-être des femmes tempêtes. Le Canada, la Suisse s'oppose aujourd'hui avec votre roman, Jean-Marie Roire. Et on va laisser la parole, tiens, justement, à une femme. Dominique Bressou, allons-y en Suisse.
Autant l'avouer, je suis restée perplexe à la lecture de ce roman et j'ai éprouvé des impressions totalement antinomiques. Autant la passion débridée du héros m'a au départ attendrie, attiré ma compassion, autant son égocentrisme doublé d'un total désintérêt à comprendre ou simplement aimer les femmes qui l'entourent m'a profondément irritée. Mais au final, je suis ravie d'avoir ce livre à proposer à certaines de mes clientes qui ne sont plus si jeunes et qui pensent qu'elles ont dépassé la date de péremption.
Billy Robinson, au Canada, vous n'êtes pas du tout d'accord.
Ben, moi, d'emblée, je dirais que la lecture de ce roman provoquera peut-être des conflits d'appréciation ou de compréhension auprès des lecteurs. À mes yeux, il y a réellement deux points de vue possibles sur le narrateur. Un vieillard libidineux, nostalgique de jours meilleurs, ou ce charmant monsieur imparfait. Ce serait alors là, un grand romantique, là, dans le fond. Alors, pour ma part, là, je suis encore tiraillé entre les deux possibilités de ces deux hommes-là, mais bien que le deuxième m'a profondément touché.
Vous préférez lequel, vous, Jean-Marie Roire?
Vous savez, moi, je ne vois pas les choses comme ça. Je crois qu'il y a une personnalité, c'est un ensemble de choses.
Il est comment, cet homme-là ?
On est tous un peu libidineux. Enfin, bon,
ah bon ?
Oui, heureusement.
Pas du tout.
Mais libidineux, ça veut dire libido. Libido, s'il n'y avait pas de libido, vous ne seriez pas là. Moi non plus. On ne serait pas là. Mais non.
Là, je suis un petit peu
grippé, moi. C'est quand même le désir. C'est le désir.
Moins de libido.
Il ne faut pas faire de l'angélisme. Nous ne sommes pas que simplement un idéal. Non, nous avons aussi des pulsions érotiques, heureusement. Ouais. Je trouve que c'est un jugement moral. Moi, je me méfie de la morale en littérature. Ouais. Vraiment, moi, je suis très immoral dans le domaine littéraire, en tout cas amoral, parce que je considère qu'on peut tout dire, justement, on peut tout dire. Et vous savez, alors, il y a des critiques qui m'ont fait... vous savez que j'ai mené un combat en faveur des prostituées, et j'ai préfacé le livre noir de la prostitution, et j'ai défendu les associations, mais ça n'a rien à voir. Ils m'ont dit, mais c'est contradictoire avec cette position où vous défendez une courtisane, vous défendez ce lien entre un homme qui paie une femme. J'ai dit, oui, mais est-ce que je veux me sentir libre. Comme écrivain, je ne suis plus du tout dans une position morale. Je défends, finalement, l'être humain dans sa complexité.
Comme on en parlait tout à l'heure avec Véronique Soucet, qui défend aussi l'être humain dans sa complexité, dans un autre genre. C'est vrai que vous défendez, Jean-Marie Rouard, le tourbillon de la volupté. Alors ça vous fascine. Et quand votre personnage porte un regard sur le passé, il s'étonne encore aujourd'hui d'avoir inspiré le désir, d'avoir inspiré lui aussi ce tourbillon de volupté. Et il dit « Plaire à une femme m'a paru une faveur inexplicable ».
C'est vrai. Et ça, c'est très autobiographique. Parce que c'est mon cas.
C'est vrai ?
À n'importe quel âge, j'ai toujours trouvé que c'était un miracle, qu'une femme, dans ce monde qui est tellement dégoûtant, les gens sont tellement laids, sont tellement vulgaires, qu'une femme puisse avoir envie de vous prendre dans ses bras, de vous embrasser, de faire des tas de choses avec vous, je trouve ça merveilleux, je trouve ça miracle. J'ai envie de remercier Bernadette Soubirou à Lourdes.
Que jusque-là.
Oui. Ouais.
Vous êtes toujours fasciné quand on vous aime, en fait.
Oui, je trouve ça formidable. Je trouve ça un miracle extraordinaire. Je trouve que l'amour, c'est la grande chose, vraiment. C'est un... Les Grecs en avaient fait un dieu, mais c'est vrai que c'est tellement important, cet amour, parce que c'est ce qui répare tellement de choses, et c'est ce qui donne le vrai sens à la vie.
Il y a deux femmes face à vous qui vous regardent avec des yeux très attentifs, Véronique Soucet, vous êtes d'accord avec ça ?
Non, je cherchais si...
C'est un miracle d'aimer un homme ?
Peut-être aussi d'aimer tout court. Ouais. Mais non, je cherchais si j'avais eu dans ma vie un homme pot-au-feu.
Shumona Sina.
Amour, l'amour, elle est très très important, mais en même temps, vous me connaissez un peu, ma position n'est pas... Enfin, moi je cherche à aimer, en fait, parler de l'humanité, c'est la complexité, l'humanité...
Non, on parle de tourbillon de volupté, là, Shumona, vous êtes hors sujet.
Ah bon, d'accord, je sors. Je sors.
Est-ce que c'est un miracle pour vous d'aimer un homme ?
Non, c'est pas un miracle.
Voyez, Jean-Marie.
C'est pas un miracle.
Mais non. Vous faites des idées.
Mais laissez-moi aimer les femmes tempêtes, les femmes qui sont d'accord avec ma conception de l'amour. Mais, vous savez, c'est peut-être parce que j'ai été trop nourri par la littérature, par la Sanseverina, par les héroïnes de Stendhal et de Racine, enfin toutes les héroïnes de la littérature, qui sont quand même des femmes voluptueuses et des femmes tempêtes.
La solitude amoureuse, c'est un échec dans la vie d'un homme, Jean-Marie Roy.
C'est la pire. C'est la solitude. S'il n'y a pas quelqu'un pour vous aimer. Et vous savez, ce qu'il y a d'affreux, c'est qu'au fond, ça part avec cette idée de la mère, la phrase de Romain Gary. Avec l'amour d'une mère, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais.
Le mot de la fin, c'est pour un libraire. Mathieu Colombe, en France, à vous de conclure. Très excité par ce livre.
Je vais essayer d'être à la hauteur.
Allez-y.
Donc, en fait, dans ce livre, déjà, il y a du style. Il y a vraiment une plume. Ça, c'est pas vraiment une surprise. On se plaît vraiment à vous lire, Monsieur Rouard. Et j'ai trouvé que vous aviez eu un peu l'audace de poser sur le papier une des peurs élémentaires de l'homme moderne. Alors bon, hélas, l'homme moderne ne brille pas vraiment ni par sa profondeur, son altruisme ou sa noblesse d'esprit. Mais ceci étant dit, je reviens là-dessus. On vous lit avec un énorme plaisir. Et il me semble très important qu'aujourd'hui, on puisse avoir à lire quelqu'un qui a le vocabulaire largement supérieur à celui d'un enfant de 9 ans. Ça fait quand même énormément de bien aux iris, de temps en temps.
Oui, parce que vous critiquez la littérature actuelle, c'est ça ?
Un petit peu.
Oui, j'ai cru comprendre ça.
Sauf
le plateau. Voilà, Jean-Marie Rouard, la vie de nos libraires. Vous êtes content ?
Oui, très content.
Très content. Bon, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à la librairie francophone. Je rappelle que votre nouveau roman, Une jeunesse perdue, est paru aux éditions Gallimard. À noter aussi un livre dans la collection Bouquin, magnifique collection, avec les romans de l'amour et du pouvoir, qui réunit plusieurs de vos ouvrages, et c'est préfacé par Philippe Tesson. Merci Jean-Marie Roy.
Merci.
La librairie francophone, Emmanuel Guérade.
Avant de conclure, coup de projecteur sur une découverte francophone avec le tout nouveau titre d'Art Mengo qui revient. Et voici donc un extrait en avant-première.
Je n'ai plus de folie, je n'ai plus de thunes. J'ai ouvert grand mon lit pour la septième lune. Seul mon amour est fou, je n'ai pas d'autre camp. Si je ne sais pas où, si je ne sais pas quand. Je sais bien que c'est toi, je sais bien que c'est nous. Je le sens dans mes doigts, je le veux à genoux. Je n'ai plus de folie, seul mon cœur m'importune. Tout le ciel a pâli sous la septième lune. Si je n'ai plus d'argent, plus riche que jamais, je regarde les gens et je sais que j'aime. Que j'aimerai demain et que j'aime aujourd'hui. Je le vois dans mes mains, je le lis dans la nuit. Je n'ai plus de raison, je n'ai plus de fortune. Je n'ai que ta maison dans la septième lune. J'ai perdu ma rancœur, le venin.
Un extrait du tout nouveau titre d'Art Mengo pour la première fois à la radio. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Serge Gandon avec Hélène Langlois. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Marie-Louise Beau en France. Martine Béguin-Felé et Annick Chemin en Suisse. René Mikils avec Valérie Leput en Belgique. Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, nous serons avec Pascal Kramer, Nasser Djemaï et Lynn Renaud. Merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter à travers le monde. Bonne semaine à vous. Salut.